Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, c'est la fête d'une fondatrice, la fondatrice des Sœurs Auxiliatrices, la bienheureuse Marie de la Providence, de son nom Eugénie Smet. On l'a considérée comme l'apôtre des fidèles défunts. Alors il sera en partie question du purgatoire aujourd'hui. Ce serait une occasion de parler de quelque chose dont on ne parle à peu près jamais. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Dans le psaume 115, que l'on récite souvent, il est dit qu'elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Hein? Et c'est pour ça que tous les jours, du lundi au vendredi, nous parlons des amis du Seigneur, ou presque uniquement des amis du Seigneur, c'est-à-dire les saints, les gens qui ont vécu dans une amitié profonde avec Dieu, sinon dans un amour qui dépasse presque tout entendement, comme celui de Thérèse d'Avila, de Thérèse de Lisieux, ou hier de Marthe Robin. En somme, quand on y pense, il est arrivé certaines choses qui peuvent surprendre au sujet des âmes du purgatoire. Au 31 décembre 1640, dans le presbytère d'un petit village d'une montagne du Vivarais, qui s'appelait la Louvesque, Saint-Jean-François Régis, un jésuite prêtre de la Compagnie de Jésus, très réputé, Saint-Jean-François Régis, et couché dans le lit du curé, puis il est épuisé de fatigue et de maladie, un frère jésuite veille près de lui. Vers minuit, ce saint qui a conservé toute sa conscience dit à son compagnon qu'il se sent très mal. Et peu après, il dit, « Oh mon frère, je vois notre Seigneur et Notre-Dame qui m'ouvre le paradis. » Et alors, il répète les paroles de Jésus sur la croix, des paroles que tout le monde connaît, du moins tous les chrétiens. « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » Ce sont les dernières paroles de Jésus sur la croix. Et l'âme de Jean-François Régis quitte notre monde pour aller dans ce monde de l'invisible, le monde du bonheur, espérons-le. Cette mort qui a édifié beaucoup de gens, c'est une cause de joie, car il est certain, aux yeux de la foi, que chaque homme reçoit, ou du moins se donne, la rétribution dans son âme immortelle, aussitôt après ce passage à l'éternité. C'est notre foi la plus courante. Mais pour ceux qui n'ont pas la foi, la mort est une énigme, je vous en ai parlé cette semaine. Quand on n'a pas la foi et que l'on ne croit pas en Dieu, l'univers n'a pas été créé, il est éternel, il ne peut pas avoir été créé, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour le faire. Alors on applique l'éternité à l'univers. Et dans cet univers apparaissent ces pauvres chimères que nous sommes, ces espèces de rêves insensés que nous sommes, fruits de rien du tout, sans âme, assemblage de matière qui pense, choses étranges, et qui cesseront complètement de penser en mourant. Et la mort devient donc une énigme, il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu. Mais cependant, nul homme ne peut écarter cette question qui est fondamentale. Que se passe-t-il après la mort? Que se passe-t-il après la mort? Pour les matérialistes dont je viens de parler, qui sont de plus en plus nombreux, semble-t-il, du moins le prétendent-ils, mais la mort nous réduit au néant. Vous savez que c'est ce qu'on enseigne souvent à des enfants, depuis longtemps d'ailleurs, et de plus en plus. Il n'est pas surprenant qu'il soit à certains moments bien désespéré, à 10 ou 15 ans. Mais que la mort nous réduise au néant, il me semble que cette opinion ne peut être que démentie par la raison. Si on y pense 2 secondes, Il me semble, à moins que j'aie un cerveau bien fermé et bien étroit. L'homme, la femme, nous pouvons penser. Nous pouvons vouloir. Nous pouvons aimer. Nous pouvons concevoir des idées et faire des raisonnements. L'être humain possède la liberté. Elle est relative, mais il la possède. Tous ces éléments manifestent en l'être humain l'existence d'un principe spirituel, l'âme. Sans âme, il me semble que une machine ne peut pas faire ça, une pure machine. L'immortalité de l'âme humaine, il me semble, se déduit à partir de son caractère spirituel et de son désir de bonheur parfait. Nous désirons tous un bonheur parfait, nous aspirons tous à ça. Quand on demande à des jeunes d'aujourd'hui qui vivent dans des couples, dans des familles refaites, brisées, et qui ne voient guère que ça autour d'eux, leur aspiration la plus profonde, c'est un amour éternel pour quelqu'un d'autre. Qui est la préfiguration de l'amour éternel dont tout homme et toute femme devrait rêver à l'égard de Dieu. Le sentiment général du genre humain témoigne, à mon sens, de cette vérité d'un bout à l'autre de la terre. Saviez-vous que Robespierre, au temps de la Révolution, qui a mené la terreur et qui a fait tellement de meurtres, finalement, a pu écrire « Le peuple français croit en l'immortalité de l'âme ». Même des gens comme ça. Pensez que Voltaire, dont vous avez tous entendu parler, j'espère, qui était un ennemi acharné du christianisme il y a quelques siècles, mais il n'a pas hésité à dire du matérialisme qu'il est la plus énorme des absurdités, la plus révoltante folie qui soit jamais tombée dans l'esprit humain. Je ne veux pas insulter les athées, mais ça n'empêche pas que c'est un peu curieux que d'être athée. De croire que l'univers n'a ni commencement ni fin, que l'univers existe par lui-même, toute cette matière en explosion et toutes ces milliards de galaxies qui circulent à des vitesses incroyables dans l'espace qu'il crée d'ailleurs, qu'il suscite, et que sur cette petite planète sont apparus ces êtres qui s'assemblent et qui jouent de la musique et qui s'inclinent les uns devant les autres par politesse, et qui s'entraident, et qui s'aiment, et qui font des enfants, sans savoir comment ça se fait vraiment. Mais il existe d'autres fausses réponses aussi à la question posée. L'une d'elles se répand aujourd'hui, c'est la théorie de la réincarnation, et je vous promets une émission d'une heure sur la réincarnation, dans un peu plus d'un mois, le 20 mars. Pour les tenants de cette doctrine de la réincarnation, mais vous savez tous qu'après la mort, l'âme humaine assumerait un autre corps et s'incarne donc à nouveau. Mais cet enseignement se retrouve chez plusieurs peuples. Hein, on le voit en Inde, dans l'hindouisme et le bouddhisme. C'est un dogme là-bas qui domine toute la religion puis l'ensemble de la pensée. C'est comme un cycle des renaissances, en quelque sorte. Et c'est quelque chose de redoutable, car il est lié au thème de la faute de l'expiation. Ça ressemble au purgatoire, en somme. C'est une punition, puis une malédiction. Et à l'opposé, dans nos sociétés occidentales, mais la réincarnation est proposée de manière plutôt positive. Pardon. Elle permettrait de réaliser toutes les aspirations de l'homme et de la femme, qui ne peuvent être satisfaites en une seule existence. Et alors, la réincarnation serait aussi le moyen de racheter ses fautes et les erreurs commises pendant la vie. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, moi, devant cette doctrine de la réincarnation, c'est que je ne connais personne, à ma connaissance, qui se souvienne sérieusement de leur vie passée et qui peuvent mettre à profit les erreurs de leur vie passée. Et cette conception qui est née du paganisme contredit l'Écriture sainte puis la tradition de l'Église. Elle se pose spécialement en trois points à la foi chrétienne. D'abord, son erreur principale consiste dans le refus de la rédemption de l'homme par Jésus, le Sauveur, car elle est fondamentalement une théorie de l'auto-rédemption, de l'auto-réalisation. On fait ça par soi-même, et au premier abord, elle apparaît très indulgente envers les faiblesses humaines, mais elle est en réalité d'une dureté inhumaine quand on y pense, et en effet, cette théorie laisse retomber sur l'homme tout le poids d'une libération, qu'en fait, il ne peut recevoir que de Dieu quand on y pense. C'est ça la foi chrétienne, nous recevons la libération par Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. L'homme doit réussir tout seul sa propre vie dans la réincarnation. Qui peut dire s'il obtiendra un meilleur résultat la prochaine fois? Le christianisme, au contraire, affirme avec force, seul Dieu est l'unique perfection de l'homme. En Jésus-Christ, nous trouvons la rédemption par son sang, par son âme, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce. C'est dans l'Épître aux Éphésiens. La communion avec Dieu et la vie en Dieu ne peuvent jamais être, à proprement parler, l'œuvre de l'homme, mais seulement un don gratuit de Dieu proposé à tout homme. Notre salut éternel ne dépend pas de la longueur de nos années, mais uniquement de l'accueil que nous réservons à l'amour du Christ. D'autre part, les tenants de la réincarnation ne peuvent admettre l'enseignement suivant de l'Église sur le jugement particulier. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1021 et 1022, je vous le lis. La mort met fin à la vie de l'homme, comme temps, T-E-M-P-S, là, temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Et chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle, dès sa mort, en un jugement particulier, qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, le purgatoire, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. C'est la fin de la citation du catéchisme de l'Église catholique, récent, là. Enfin, la théorie de la réincarnation ne peut être conciliée quand on y pense avec la résurrection des corps, à la fin du monde, pour le jugement universel dont on proclame ça le dimanche dans le credo, dans le « Je crois en Dieu ». L'Église croit et confesse fermement qu'au jour du jugement général, c'est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, l'Église croit et confesse fermement qu'au jour du jugement général, tous les hommes comparaîtront avec leur propre corps devant le tribunal du Christ pour rendre compte de leurs propres actes. Et ce jugement universel, à la fin du monde, ne remettra pas en cause le verdict évidemment irréversible qui a été porté lors du jugement particulier, au moment de notre mort, à l'instant de la mort, quoi. Mais il aura pour but de rétablir la justice sociale, et nos bonnes et mauvaises actions ont une répercussion, on dirait, d'édification ou de scandale sur notre prochain. Parfois, cette influence dure même après la mort par les œuvres laissées ici-bas. Puis à la fin des temps, bien, la vertu sera exaltée, puis le mal condamné devant tous les hommes, et justice alors sera faite aussi au corps ressuscité selon la participation qu'ils auront eue au bien et au mal. Et enfin, la sagesse de la divine providence dans la conduite de l'histoire des hommes ne va apparaître clairement. Et certains penseurs chrétiens croient que notre corps nous est rendu glorieux d'une certaine façon au moment de notre mort, l'être humain étant fondamentalement corps et âme indivisibles. Pour revenir au purgatoire, puisque c'est la fête aujourd'hui de la fondatrice des auxiliatrices, qu'on appelait autrefois les auxiliatrices des âmes du purgatoire, eh bien seule l'Église, quand on y pense deux secondes aussi, qui est la fidèle dépositaire de l'enseignement de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Seule l'Église nous apporte la pleine lumière sur la mort, puis les réalités de l'au-delà. à la suite de toute la tradition qui dure depuis, je vous le rappelle, près de 2000 ans. Eh bien, le Concile Vatican II affirme que le cours de notre vie, c'est le texte, le cours de notre vie terrestre est unique. Il n'y en a pas deux. Nous n'avons qu'une vie. C'est dans l'Humen Gentium. Et le moment de la mort est donc décisif. Celui qui meurt dans l'amitié divine entièrement purifiée de ses péchés entre immédiatement dans la gloire du ciel, ce sont les saints. Le ciel, c'est l'état de bonheur suprême et définitif. C'est la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, comme on l'a vu hier chez cette femme, justement, chez Marthe Robin. Et chez tant d'autres, nous allons faire la 400e émission lundi prochain, dans 3 jours. Là, les bienheureux vivent au ciel pour toujours avec le Christ. Ils sont semblables à Dieu parce qu'ils le voient face à face. Et à l'opposé, si quelqu'un meurt en état de péché grave, dans le refus de l'amour de Dieu, c'est ça le péché grave, le refus de l'amour de Dieu, il descend de lui-même immédiatement, dit le catéchisme de l'Église catholique, dans l'enfer éternel. Je vous ai fait une émission sur l'enfer, et c'est un sujet extrêmement difficile qui me brise le cœur, moi. La mort, nous enseigne-t-on, le fixe dans l'état intérieur de rébellion contre Dieu. Et voici ce que disait Sainte Catherine de Gênes. L'auteur, il y a bien des siècles, qui est docteur de l'Église, le texte, le traité du purgatoire, il y a bien des siècles. Elle dit, les âmes qui sont en enfer pour être sorties de ce monde avec cette mauvaise volonté sont toujours en état de péché. Et ce péché ne leur est jamais remis. Il ne peut l'être parce qu'elles ne sont plus en état de changer leur volonté. Et le moment de la mort la fixe et l'arrête pour jamais. Enfin, on sait que certains meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, c'est probablement la grande majorité. Et le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1031 dit bien, « Bien qu'assurés de leur salut éternel, ceux-là souffrent, après leur mort, une purification. » Voilà, c'est ça le purgatoire, une purification. Afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Et cette purification finale des élus est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Rien de souillé ne peut être introduit en présence du Seigneur. Toute tâche est un empêchement à la rencontre intime avec Dieu, dont la sainteté requiert une pureté parfaite chez ceux qui entrent au ciel. C'est la tradition qui nous enseigne tout cela. Et ce principe doit être compris non seulement quant aux péchés graves, mortels, comme on disait, qui rompent et détruisent l'amitié avec Dieu, ce qui doit être pourtant bien rare. Comment commettre vraiment un péché mortel? Il me semble que ça ne doit pas être facile. Mais également, ça doit être compris à propos des tâches qui obscurcissent cette amitié, cet amour entre Dieu et nous. Et à ces tâches appartiennent les péchés véniels, les séquelles des péchés graves qui peuvent demeurer chez l'homme en état de grâce après la rémission de la faute qui a été obtenue par le sacrement de la réconciliation ou par la contrition parfaite jointe au désir du sacrement. C'est Saint Césaire d'Arles qui disait il y a bien longtemps que les péchés véniels, sans pouvoir tuer l'âme, la rendent cependant difforme de telle sorte qu'elle puisse à peine ou avec une grande confusion venir au baiser du céleste époux. C'est lui, Césaire d'Arles, qui parlait comme ça. Heureusement, la miséricorde de Dieu nous offre la consolante possibilité d'une entière purification après la mort. Or, arrive, au siècle dernier, une petite fille qui va nous aider à mieux connaître le mystère du purgatoire. En fait, c'est Eugénie Smet, la fondatrice des auxiliatrices. Un jour, suivant des papillons avec ses compagnes, Eugénie Smet, dans l'exubérance de ses 7 ans, arrête tout à coup sa course rapide, puis elle dit, « Savez-vous à quoi je pense ?» Et elle dit ça à ses amis, et Sans attendre de réponse, elle continue, mais d'un air assez grave, d'une enfant de 7 ans, elle dit, « Dites-moi, si l'une d'entre nous était dans une prison de feu, et qu'il nous soit possible par un simple mot de l'en délivrer, Tom, nous prononcerions vite ce mot, n'est-ce pas? Voilà pourtant ce qui arrive dans le purgatoire. Les âmes y sont comme dans une prison de feu, et le bon Dieu n'attend de nous qu'une prière pour les en délivrer. Cette prière, nous ne la disons pas. » Ces mots à peine prononcés, la petite Eugénie Smith reprend sa course avec ardeur. Quelques beaux papillons l'ayant rappelé à des choses plus banales. Et puis, mais qui est-elle, cette Eugénie Smith? Eugénie Marie Joseph Smith est née à Lille en 1825. C'est la seconde enfant de Henri Smith et de Pauline de Montdivert. Elle fait sa première communion le 7 avril 1835. Le 7 avril, c'est l'anniversaire de la mort de Jésus. Il est mort un 7 avril de l'an 30. Et le 26 septembre 1836, elle est mise par ses parents pensionnaires dans un couvent des Sœurs du Sacré-Cœur à Lille, où elle restera jusqu'au 4 septembre 1843. Et très tôt, l'action de la grâce se fait sentir dans son âme. Deux choses la fascinent surtout, le purgatoire puis la divine providence. « Mon Dieu, dit-elle à l'âge de 12 ans, vous êtes ma providence. Ah, si je pouvais un jour être la vôtre! » Et alors qu'elle cherchait le moyen d'être la providence de celui qui la comblait de bien, elle se fait cette réponse. « Ah, voici comment je serai la providence du bon Dieu. Il aime tant les âmes du purgatoire et il ne peut les délivrer à cause de sa justice. Eh bien moi, je lui donnerai ses âmes qu'il aime, et je demanderai à tout le monde de lui en donner, par des prières et par de petits sacrifices. C'est ce que l'Église entière fait au moment de la messe en priant pour les âmes des défunts. » Les âmes du purgatoire endurent en effet, croit-on, des souffrances très grandes pour leur purification. La nature des peines du purgatoire, ça n'a pas été précisé par le magistère de l'Église. C'est Sainte Catherine de Gênes qui affirme que le retardement, c'est très beau, ça, le retardement de la vision de Dieu, face à face, là, est très douloureux pour l'âme au purgatoire. En effet, celle-ci est séparée de son corps et voit clairement que Dieu est son unique fin ultime. Aussi désire-t-elle avec véhémence s'unir au souverain bien qu'elle aime très ardemment. C'est la pensée de Sainte Catherine de Gênes, qui est assez grandement acceptée dans le christianisme. Il y a également au purgatoire quelques peines sensibles, la tâche désordonnée aux créatures qui se trouvent dans tout péché actuel, même véniel, y est compensée par une souffrance sensible de la part des créatures. Et l'Église catholique latine, à la suite de nombreux pères et docteurs de l'Église, elle enseigne que l'un des instruments de cette peine du sens serait un feu réel, ce qui est plus ou moins rejeté. Et la tradition de l'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture, parle d'un feu purificateur. On voit ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Peu importe, à mon avis, l'intensité des peines du purgatoire reste cependant proportionnée à la nature et à la gravité des fautes à expier. Et alors, on va voir que Eugénie Smith acquiert au couvent, là, chez les Sœurs du Sacré-Cœur, une bonne formation à Lille, dans le nord de la France, pas loin de la Belgique. Puis elle mûrit sa piété et elle sent pour la vie religieuse un attrait profond que combatte son attachement pour les siens, son impossibilité à fixer son choix sur une congrégation quelconque. Et revenue dans la maison familiale à Lille, Eugénie se trace un règlement pour éviter de perdre son temps. Puis elle commence par secourir les pauvres, puis elle se prépare finalement en s'occupant des églises et en faisant toutes sortes de choses à l'intérieur des paroisses pour les entretenir comme du monde. Elle se dévoue aux œuvres missionnaires et l'année suivante, elle rencontre un jésuite qui lui recommande la mission de Madurai aux Indes, dont je vous ai parlé mardi dernier en vous parlant de Saint Jean de Brito. Et de là va naître en lui ce grand amour de la vie religieuse, et vous verrez ce qui va s'en suivre. Je vous disais qu'elle avait rencontré un jésuite qui cherche à la guider un peu, et il lui recommande la mission de Madurai dans le sud de l'Inde. Je vous en ai parlé longuement mardi en parlant de ce grand saint Jean de Brito qui a été martyrisé un peine 3 siècles, il y a un peu plus de 3 siècles. Alors elle organise des fêtes, des loteries, elle ramasse tellement d'argent que les jésuites en sont bien contents pour leur mission, mais après avoir longtemps renouvelé régulièrement un vœu temporaire de chasteté, elle le rend perpétuel le 31 mai 1852. C'est un jour profond pour elle où elle s'offre à Dieu, et Dieu la prend. Elle fait évidemment ce vœu avec l'autorisation de l'évêque de Belley, Monseigneur Chalandon, qu'elle connaît bien. Et bien que décidée à secourir les âmes du purgatoire, Eugénie Smith ne sait pas encore à quel genre de vie Dieu l'appelle. Et le jour de la Toussaint, 1853, pendant la Sainte Messe, elle a une inspiration, l'inspiration d'établir une association, une simple association de prières, de bonnes œuvres, comme on y en avait tellement à l'époque, pour les âmes des défunts cette fois-ci. Et puis le lendemain, jour de la commémoration des fidèles défunts, le 2 novembre, cette pensée lui vient. J'ouvre les guillemets. Il y a des communautés qui répondent à tous les besoins de l'Église militante. L'Église militante, vous comprenez, c'est l'Église sur la terre, nous. Mais il n'y en a aucune qui soit entièrement consacrée à l'Église souffrante par la pratique des œuvres de zèle et de charité. L'Église souffrante, l'Église du purgatoire. Au ciel, l'Église triomphante. Ce sont les termes classiques. Et ce sera là l'idée maîtresse de cette association et de l'institut religieux qui va en sortir. Et Eugénie Smith, qui va devenir Mère Marie de la Providence, avait toujours eu l'intuition. L'intuition que les œuvres de miséricorde, surtout celles qui sont faites là en faveur des pauvres de ce monde, sont le moyen le plus efficace pour secourir les pauvres de l'au-delà, ceux qui sont au purgatoire. Et en se faisant les servants des pauvres, des malades, des prisonniers, des vieillards, je répète, elle veut que ses sœurs deviennent des servantes des pauvres, des malades, des prisonniers, des vieillards, en un mot de tous les nécessiteux. Mais les auxiliatrices des âmes du purgatoire réaliseront l'idéal de leur fondatrice, qui est dans la conception de l'époque, prier, souffrir et agir pour les âmes du purgatoire. Mais aussi se réjouir, rire, fêter, célébrer pour les âmes du purgatoire. C'est ce que j'ajoute, car la spiritualité chrétienne ne sépare pas la souffrance de la joie. Et la Sainte Écriture nous enseigne que l'on peut soulager les âmes du purgatoire. Vous direz, mais comment? Bien oui. Commentant l'offrande faite par Judas Maccabée dans l'Ancien Testament d'un sacrifice pour les morts, l'Église affirme, elle est donc sainte et salutaire la pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Vous trouvez ça dans le deuxième livre des Maccabées, 12:46. L'Église a toujours honoré la mémoire des défunts, toujours offert en leur faveur des prières, des bonnes œuvres et surtout le saint sacrifice de la messe. Ça se faisait dans les catacombes, à Rome. La liturgie du 2 novembre, la fête des morts comme on dit, a été spécialement instituée à cette fin, grâce à une initiative d'un abbé bénédictin de Cluny, un très grand abbé qui est mort il a fait ça en l'an 998, c'est saint Odilon, dont je vous ai déjà parlé. Et à chaque messe, la prière du canon, je vous l'ai dit tout à l'heure, comporte une intercession en faveur des fidèles défunts. Il ne faut pas l'oublier, c'est une solidarité surnaturelle. C'est un aspect de ce que j'appelle la communion des saints, qui est très agréable à Dieu, comme notre Seigneur l'a révélé d'ailleurs un jour à la vénérable Marie Lataste, « Tu ne sauras rien faire de plus agréable à Dieu que de venir au secours des âmes du purgatoire. » Et en retour, les âmes que nous aurons secourues par nos prières, nos aumônes, nos sacrifices, les messes dites à leurs intentions, et à qui nous aurons aussi témoigné notre affection d'une manière efficace, mais ils ne manqueront pas de nous secourir à leur tour, ça j'en suis sûr, je l'ai déjà expérimenté, mais est-ce de l'illusion? Je le saurai de façon claire de l'autre côté, mais c'est ma foi. Cet usage, si salutaire pour les défunts, ça l'est aussi pour nous, c'est évident, il réveille notre foi, notre espérance, et devient ainsi un puissant aiguillon de sanctification puis de pénitence dans un sens. Nous pouvons en effet nous purifier déjà sur la terre des fautes légères qui sont dues à notre fragilité humaine. Et Dieu comprend bien ça. Dieu a un cœur tendre, un cœur de mère. L'homme a ici-bas un grand et salutaire purgatoire. L'homme patient qui en bute aux outrages s'afflige plus de la malice d'autrui que de sa propre injure. Et c'est ce qu'on peut lire dans l'Imitation de Jésus-Christ au premier livre, chapitre 24. Qui prie sincèrement pour ceux qui le contristent et leur pardonne du fond du cœur, qui s'il a peiné les autres, s'il a fait de la peine aux autres, est toujours prêt à demander pardon, qui incline à la compassion plus qu'à la colère, qui se fait violence à lui-même et s'efforce d'assujettir entièrement la chair à l'esprit. Que c'est beau cette imitation, ça se, il faut le lire et le relire. Alors le fameux Monseigneur Chalandon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'occupe de Eugénie Smith, le curé de Loos, aussi, et bien d'autres personnes, bien, approuvent l'idée d'une confrérie, mais ils s'inquiètent de voir Eugénie fonder une nouvelle congrégation religieuse. Elle ne se rend pas à leurs objections. Elle pousse le recrutement de la confrérie. Ils sont 1500 membres à un moment donné. Alors l'archevêque de Cambrai est mis au courant. La grande déception d'Eugénie refuse son autorisation parce qu'il craint que les collectes effectuées pour faire dire des messes, ça donne lieu à des interprétations plus ou moins fâcheuses, comme si l'Église voulait accumuler de l'argent. Il a bien raison de craindre ça. Et Eugénie décide de recourir directement au pape, comme Thérèse d'Enfant Jésus, la petite Thérèse Martin. Elle réussit à lui faire parvenir une supplique au bas de laquelle Pie IX daigne inscrire de sa propre main là une formule de bénédiction en 1854. Monseigneur Régnier, évêque à son tour, 1854, quelques mois plus tard, fait la même chose, et puis l'association de prière, ouvertement patronnée par Monseigneur Régnier, puis Monseigneur Chalandon, connaît une grande vitalité, et Eugénie Smith a alors 29 ans. Elle se voit bientôt considérée comme la supérieure d'un petit groupe de jeunes filles, spécialement vouées au salut des âmes du purgatoire. À la fin d'août 1855, elle tombe malade. Et si gravement que tout son entourage craint le pire. Mais elle déclare à son confesseur, « Je ne mourrai pas, l'œuvre du purgatoire n'est pas faite. » Alors plusieurs de ses amis, ne croyant plus à l'avenir du projet, la quittent. C'est alors qu'elle reçoit en 1855, vers la fin de l'année, deux lettres de Paris qui l'invitent à venir organiser une œuvre que des âmes pieuses désirent, sans être capables de la réaliser. Mais les oppositions ne cèdent pas. Elle s'appuie sur les encouragements, notre Eugénie Smith, les encouragements de l'évêque de Soissons, puis surtout sur l'avis favorable du curé d'Ars. Et en 1856, après avoir dit adieu à ses parents, elle part pour Paris. Arrivée rue Saint-Martin, où loge ses futures compagnes, tout l'impressionne défavorablement. Ça ne marche pas, le prêtre qui lui est accordé, qui doit être son fondateur, elle ne s'entend pas tellement avec lui. Elle pense à repartir tout de suite. Les objections qu'on lui fait la touchent cependant. Et puis, les jours suivants, mais elle multiplie les démarches. Elle découvre des amis, des protecteurs. Elle repart pour Lille. Et puis, les nouvelles de Paris sont mauvaises. Alors, le 25 mars de cette même année, Eugénie Smith doit revenir. Et c'est compliqué, fonder. Tout va mal, pas d'argent. Il n'y a pas d'air aussi dans l'appartement qui est trop petit, où les sœurs sont confinées. Il n'y a pas d'entente entre les sœurs. Certaines veulent des activités immédiates, surtout dans l'enseignement, sans exiger au préalable une vraie formation religieuse. Puis enfin, il devient de plus en plus évident que l'abbé, l'argentier qui lui est confié pour s'occuper d'elle, là, envoyé par l'évêque, puis Eugénie Smith, là, n'arriveront jamais à se comprendre. Ils ont raison de se séparer, finalement. Et c'est un curé de Paris, le curé de Saint-Méry, qui va le remplacer. Alors là, la lumière se fait. Eugénie Smith sauve sa communauté de la maladie de la discorde en l'installant dans une belle maison rue de la Barouillère en 1856. Là, la fondation d'un ordre religieux, faut bien y penser, ça passe toujours par le creuset de l'épreuve. C'est la même chose probablement pour la fondation des postes de radio, des associations de toutes sortes dans l'Église. Vous tous qui m'écoutez, qui fondez des choses, sachez bien qu'il y a toujours le creuset de l'épreuve. Mille angoisses assaillent le cœur de Mère Marie de la Providence, Eugénie Smith. Des désolations intérieures profondes, le dénuement matériel complet. Mais la Providence ne lui manque jamais. Et un jour, alors que son âme est éprouvée par des difficultés profondes, là, elle confie toutes ses difficultés au curé d'Ars. Et celui-ci lui fait répondre: « Monsieur le curé sourit au récit de toutes vos épreuves, et il me charge de vous dire que ces croix sont des fleurs, qui bientôt donneront leurs fruits. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ?» C'est le curé d'Ars qui parle comme ça. « Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ?» Je vous prépare une émission sur le curé d'Ars pour bientôt. Hein. Parce que sa fête tombe en été, je vais le faire au mois de mars. Dans une autre lettre, le curé d'Ars lui écrit: « Une maison qui s'élève sur la croix ne craindra plus l'orage ni la pluie, c'est le sceau divin. » Et pour bien marquer leur désir de vie religieuse, les femmes qui entourent Eugénie Smith prennent des noms de religion, c'est comme ça qu'elle devient Mère Marie de la Providence. Ce qui ne veut pas dire que la congrégation est vraiment constituée. Le prêtre qui s'en occupe, qui s'appelle l'abbé Gabriel, a des idées bizarres, ça arrive, hein? Ah, les problèmes dans l'Église. Alors, elles font des petits travaux, mais quelle quête. Et le souci des âmes du purgatoire reste pourtant primordial. C'est une activité qui prend le pas sur toutes les autres. La visite des malades pauvres. Elles croient que par là, la visite des malades pauvres, elles peuvent mieux servir dans la charité. C'est inauguré en 1856. À la fin de l'année 1856, les premières sœurs prononcent leurs vœux. C'est le 27 décembre. Et obligée d'agir par elle-même, la supérieure, Eugénie Smith, prend de plus en plus l'habitude de faire approuver ses décisions, sans penser à prendre conseil ou à obéir. Cette liberté excessive risque de tout compromettre. En novembre de l'année suivante, la jeune communauté n'a plus de chapelain. Les sœurs demandent un jésuite. On leur en donne un excellent, de grande valeur, qui, au bout de quelques jours et en plein accord avec le prêtre qui s'en occupait avant, prend en main la direction spirituelle, et là, tout est sauvé. Comme quoi, il faut garder espoir. Et Dieu surgit tout à coup par l'intermédiaire d'un bon jésuite au besoin, et là, les choses changent. Cette fois, Mère Marie de la Providence est à rude école, cependant. Elle s'en aperçoit, parce que ce bon père est exigeant. Elle dit: « Vous me brisez, vous m'enlevez tout en train. » Et le père lui dit: « Plaise à Dieu, » il dit, seul sourire aux lèvres, « plaise à Dieu qu'il en soit ainsi et que l'Esprit de notre Seigneur remplace votre activité naturelle. » Et un peu plus tard, elle dit: « Je me plains que tout m'ennuie. » Puis il lui dit: « Vous n'êtes pas la seule. » Elle lui dit: « Je crois que les autres s'amusent ou s'ennuient pour l'amour de Dieu. » Il lui dit: « C'est une illusion, on ne s'amuse pas en s'ennuyant. » Et supporter les souffrances n'empêche pas de la sentir. Alors il réduit les activités trop nombreuses. Et elle lui dit: « Mon père, je ne fais plus rien. » Il lui dit: « Vous avez à vous occuper avant tout du purgatoire, et auparavant, vous travaillez pour vous, et maintenant, vous travaillez pour notre Seigneur. » Alors d'excellentes recrues arrivent, et la maison devient trop petite. Mère Marie de la Providence réussit à acheter l'immeuble voisin, tout s'agrandit. Et on modèle la vie sur les jésuites, les règles, les constitutions. Elles deviennent presque des jésuites féminines. Et en 1865, il y a une première fondation à Nantes. Elles vont se répandre. Et la santé de notre fondatrice commence à fléchir. Elle doit prendre des ménagements, là. Et plus inquiétant encore, en 1865, en plein été, le jésuite qui s'en occupe de façon intelligente part pour la Chine. Et c'est puis l'abbé qui s'en occupait avant se noie accidentellement. C'est coup sur coup. La fondatrice est en plein désarroi. Mais on lui envoie un autre jésuite remarquable, le père Olivain, un grand jésuite, qui voit tout de suite ce qu'il faut dire à cette âme et lui dit: « Je veux faire de vous une femme forte et non une femme d'impression. » Je veux faire de vous une femme forte et non une femme d'impression. Je ne veux pas que ma direction soit un éteignoir et fasse de vous une machine. Il faut que vous conserviez votre personnalité. » Puis il l'engage à être solide et à s'occuper et du spirituel et du temporel et d'être lucide. Et ce jésuite lui dit à la fondatrice, qui se décourage: « Quelle infidélité de votre part si, après tout ce que la Providence a fait pour vous, vous ne dormiez pas sur vos deux oreilles, une oreille pour le temporel, l'autre pour le spirituel. » Un peu d'humour jésuite là-dedans. Et le 4 août 1867, le vicaire apostolique du Qiangnan, en Chine, Mgr Larguilla, qui vient rue de la Barouillère au couvent, y propose aux auxiliatrices une fondation en Chine. Les volontaires sont si nombreuses. Et Mère Marie de la Providence, tellement encouragée par ses bons conseils spirituels, qu'elle ne croit pas pouvoir se dérober. Alors les deux premières auxiliatrices partent pour la Chine en octobre 1867, et la congrégation va se couvrir finalement une grande partie de la terre. L'année suivante, quatre autres vont rejoindre ses sœurs, là. Et les demandes de fondation dans divers pays affluent, mais la congrégation est encore trop jeune. D'ailleurs, trois maisons suffisent pour demander l'approbation de Rome. Alors là, les démarches entreprises aboutissent. Et puis Rome approuve cette congrégation. Mais quelques jours après, la mère de la Providence, qui souffre atrocement, voit des médecins qui, après avoir parlé d'intervention chirurgicale, y renoncent sans doute parce qu'ils jugent que le cancer est trop avancé. Et pendant que son institut s'étend, en France, à l'étranger, Mère Marie de la Providence gravit son calvaire, rongée par un mal qui ne lui laisse aucun répit. Accablée par la souffrance, elle garde extérieurement sa tranquillité, son assurance, sa ferveur, sa gaieté communicative aussi, car c'est une femme joyeuse. Et personne mieux qu'elle ne sait consoler toutes les peines et répandre la confiance et la paix. Elle répète souvent « Toute ma force est dans la vue de mon crucifix ». Et c'est curieux comme les gens qui regardent le crucifix peuvent être sereins. C'est curieux. Son ardente charité la consume entièrement pour Dieu et pour les âmes. Elle réalise ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous le rappelle, c'est le centenaire de sa mort cette année, ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus criera quelques années plus tard dans une de ses poésies, « Avant de pouvoir contempler ta gloire, il faut que je le sais, passer par le feu. » Et moi, je choisis pour mon purgatoire ton amour brûlant au cœur de mon Dieu. C'est dans un des poèmes de Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors au purgatoire également règne l'amour de Dieu. Sans lui, la souffrance serait impuissante à produire l'œuvre merveilleuse de la purification que l'Église nous enseigne qui se produit au purgatoire. Les âmes y jouissent d'une paix profonde et inaltérable, car elles acceptent pleinement la volonté de Dieu sur elles. Et malgré leurs grandes souffrances, les âmes du purgatoire sont heureuses par leur amour de Dieu et l'assurance d'être aimée de lui aussi. Cette assurance d'être aimée de Dieu rend l'homme et la femme et les enfants et les vieillards et les malades heureux s'ils le veulent bien, être convaincus de cet amour. Et elles sont heureuses aussi par leur amour de Notre-Dame et des saints, par la ferme espérance du ciel, par la certitude de leur salut aussi. Le mal n'empêche pas donc la fondatrice des auxiliatrices de s'occuper de ces maisons. Elle organise un nouveau couvent à Bruxelles. Elle apprend qu'en Chine, ses filles s'installent dans une maison plus vaste, abandonnant d'ailleurs aux carmélites leur première demeure des carmélites en Chine. Mais elle est si faible qu'elle ne peut se déplacer, pas même pour aller fermer les yeux de son pauvre père qui meurt le 9 février 1870 durant la guerre. Et la guerre avec les Allemands lui apporte de nouveaux soucis. La guerre de 1870, les malheurs de la France atteignent sa congrégation et avant que Paris soit encerclé par les Allemands, elle fait partir les novices pour Nantes et Bruxelles. Dans la maison à Paris, on installe une ambulance au cas. Le cancer se développe inexorablement. Ça ne lui laisse que la force de souffrir à Eugénie Smith, qui est une bienheureuse. En 1870, au plus fort de la guerre franco-allemande, la pensée de la mère l'emporte davantage encore au purgatoire. Elle écrit, et elle s'écrie plutôt, « Mon Dieu, que d'âmes paraissent devant vous. Mon Jésus, miséricorde pour elle. » Je ne puis plus penser à autre chose qu'aux âmes qui entrent dans leur éternité. Ceci, au moins, est une vérité, et quelle vérité! Alors, quelques jours après l'armistice, le 7 février 1871, à 45 ans, presque 46, elle meurt, et son visage, crispé par la douleur, redevient calme et serein. Elle avait vécu sur la croix, et la croix lui ouvrait le paradis. Elle avait dit, peu de temps auparavant, Attachons-nous à la croix. Elle est notre unique espérance. La vie est si courte, et l'éternité ne finira jamais. Soyons déjà de l'éternité. Je vous rappelle que cet attachement à la croix, c'est une façon de s'offrir dans l'amour à Dieu. Non pas par masochisme, mais par un oubli de soi pour laisser toute la place à l'amour de Dieu. Au lendemain de la cérémonie de béatification, le 26 mai 1957, le pape Pie XII résumait dans une allocution l'essentiel du message laissé par Sœur Marie de la Providence. Parce que l'éternité ne finira jamais et que soyons déjà de l'éternité. Alors le pape disait, quiconque poursuit ainsi le dépouillement de tout intérêt personnel et de tout égoïsme et se consacre sans réserve à l'œuvre rédemptrice universelle connaîtra, comme Mère Marie de la Providence, la souffrance et l'épreuve, mais aussi l'invincible sécurité de qui s'est établi sur la force de Dieu même. Et attend avec une humble confiance l'heure du triomphe sans fin. In te domini speravi, non confundar in eternum. C'est en vous, Seigneur, que je cherche mon refuge, que mon espoir ne soit jamais déçu. C'est le psaume 70. Telle est la grâce que nous pourrions demander à Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui nous sont chers. Nous devrions tous prier spécialement pour nos défunts, à la messe, si possible chaque jour, en pensant aussi à toutes les âmes du purgatoire. Et n'hésitons pas à penser que cette vérité est pleine de sens.